Vous écoutez RFI, il est 22h ici à Paris, 20h en temps universel.
Romain Ozoui.
Bonsoir à tous, bienvenue dans votre journal en français facile. À la une ce soir, la mobilisation des autorités françaises contre l'islam radical. Le président Emmanuel Macron était aujourd'hui à Bobigny, près de Paris, et il a annoncé la dissolution du collectif pro-palestinien Cheikh Yassine. Demain aura lieu un hommage national à Samuel Paty, l'enseignant assassiné vendredi à Conflans-Sainte-Honorine. Un nouveau signe des normalisations des relations entre Israël et les Émirats Arabes Unis. Une délégation émirati s'est rendue aujourd'hui à Tel Aviv et des accords économiques entre les deux pays ont été annoncés. Et puis Google, attaqué par la justice fédérale américaine, le géant de l'Internet, accusé de position dominante. C'est une décision historique et c'est l'aboutissement d'un an d'enquête.
Les journaux en français facile.
En français facile.
En France, l'émotion reste très vive. 4 jours après l'assassinat sauvage d'un enseignant à Conflans-Sainte-Honorine près de Paris, les hommages se multiplient. En fin de journée, des milliers de personnes ont participé à une marche blanche à Conflans-Sainte-Honorine. Demain est prévu l'hommage national en présence du président Emmanuel Macron depuis la cour de la Sorbonne à Paris. Et puis l'hommage de la classe politique aujourd'hui à l'Assemblée nationale, mais une classe politique qui est divisée quant à la réponse à apporter après cette attaque. Anthony Lattier.
Le silence n'aura duré qu'une minute. Rapidement, la politique reprend ses droits et c'est à droite qu'on est le plus dur avec le gouvernement, le député Les Républicains, Damien Abad.
Ne pas oublier, c'est surtout, monsieur le Premier ministre, ne pas oublier d'agir. Et depuis 3 ans, votre majorité a refusé systématiquement toutes nos propositions contre l'islamisme radical.
Réplique du Premier ministre Jean Castex.
Toute occasion est saisie pour nourrir la polémique et aligner les contre-vérités. Ce n'est pas digne. Vous êtes dans l'incantation, nous sommes dans l'action.
Jean Castex chahuté, fait rare, c'est à gauche qu'il reçoit du soutien de l'insoumis Jean-Luc Mélenchon au communiste André Chassaigne.
Le pire, ce serait de tomber dans le piège de la division, mais aussi de laisser croire que nos concitoyens de confession musulmane s'accommodent du terrorisme islamiste. Si c'était le cas, celui qui a ôté Samuel Paty à sa famille et à notre pays aurait gagné.
L'ensemble des députés se lèvent, sauf ceux de droite. Malgré le drame, l'heure n'est décidément pas à l'unité nationale.
Voilà, Anthony Lattier à l'Assemblée nationale. Donc des critiques, mais les autorités continuent d'annoncer des mesures. Le président Emmanuel Macron était en déplacement à la préfecture de Bobigny, près de Paris, aujourd'hui. Et il a annoncé la dissolution du collectif pro-palestinien Cheikh Yassine, collectif fondé par Abdelhakim Sefrioui, un militant islamiste radical qui est actuellement en garde à vue. Dans l'enquête sur l'attentat de vendredi, 9 autres personnes se trouvent également en garde à vue. La question est de savoir si le meurtrier a pu bénéficier de complicité. Parmi les gardés à vue se trouve un parent d'élève de Samuel Paty qui avait appelé à la mobilisation après un cours sur la liberté d'expression au cours duquel Samuel Paty avait présenté des caricatures de Mahomet. Aujourd'hui, on a appris que ce parent d'élève avait échangé avec le meurtrier sur la messagerie instantanée WhatsApp. Direction maintenant Israël, avec la visite aujourd'hui d'une délégation officielle venue des Émirats Arabes Unis. 2 ministres et 2 ministres adjoints qui se sont déplacés à Tel Aviv. Il s'agissait de la première visite officielle depuis l'annonce de la normalisation des relations entre les deux pays. Les Émirats Arabes Unis donc et Israël. Seuls quelques pays arabes, il faut le savoir, ont normalisé leurs relations avec Israël. Alors pour ce déplacement, il s'agissait de parler économie. Compte rendu de Guilhem Deltey à Jérusalem.
2 mois après l'annonce d'un accord de normalisation entre les deux pays, chaque étape de ce rapprochement reste marquée par une emphase de la part des acteurs. « Nous sommes en train d'écrire l'histoire », a déclaré Benjamin Netanyahou, le premier ministre israélien, en accueillant l'avion, alors que les États-Unis, toujours au premier rang de chaque étape de la naissance de cette alliance, ont qualifié le vol de moment enthousiasmant par la plume d'Avi Berkovitz, représentant de Donald Trump pour les négociations internationales. La page d'histoire écrite ce mardi portait avant tout sur les échanges commerciaux commerciaux entre les deux pays. Ce sont d'ailleurs les ministres des Finances et de l'Économie des Émirats Arabes Unis qui menaient leur délégation nationale et le secrétaire au Trésor qui était à la tête de l'équipe américaine. Les trois pays ont annoncé la création d'un fonds de 3 milliards de dollars pour financer le développement régional, notamment des projets d'infrastructures au Moyen-Orient. Israël et les Émirats ont également signé un accord exemptant les citoyens de chaque pays de visa. Cela devrait faciliter les échanges. Mais ce mardi, la délégation émirienne n'a pas quitté l'aéroport de Tel Aviv, officiellement en raison de restrictions liées au coronavirus. La partie culturelle de ces visites devra attendre la fin de la pandémie. Guilhem Deltaï, Jérusalem, RFI.
En Bolivie, les futurs chantiers du nouveau président, Luis Arce, vainqueur de la présidentielle dès le premier tour avec plus de 52% des voix, selon plusieurs sondages de sortie des bureaux de vote. Les résultats officiels ne sont pas encore parvenus, mais dès hier, son rival Carlos Mesa a reconnu la large victoire de Luis Arce. Et Luis Arce, donc, qui va devoir faire face à une crise économique très importante qui touche la Bolivie. Et une crise qui s'est aggravée avec la pandémie de coronavirus. Les plus touchés sont les travailleurs de l'économie informelle. Leurs revenus ne sont pas déclarés. Voilà pourquoi on parle d'économie informelle. Écoutez ce reportage à La Paz de l'envoyé spécial de RFI, Oriane Verdier.
Dans une rue de La Paz, plusieurs hommes attendent sur le trottoir à leurs pieds une insigne, peintre et maçon. Daniel gagne sa vie au jour le jour. Depuis la pandémie, les chantiers se sont réduits et il ne croit pas que le masque puisse lui apporter un grand réconfort.
Ça va être très compliqué de reprendre les choses en main. Peut-être que dans un an, on sera au moins un peu stable. Mais ça va être un vrai défi pour le gouvernement qui vient. Pour moi, le coupable, c'est le gouvernement de transition qui a beaucoup dépensé. Ils ont prêté de l'argent aux entreprises publiques uniquement. Mais pour les gens de notre condition, il n'y a rien. Ici, jamais personne ne pense à nous. Aucun gouvernement ne vient nous voir. C'est ça la réalité.
Sur le trottoir d'en face, Virginia a le regard résigné. Depuis la pandémie, les gens n'achètent plus ces produits cosmétiques. Ils gardent leur argent pour se nourrir. Elle pense même arrêter de travailler.
Plus on vit, plus les choses empirent. D'où est-ce que le gouvernement va sortir plus d'argent? Ils sont surtout en train de s'endetter de plus en plus. Avec les années qui passent, je pense que ça va empirer. Il n'y aura même plus de travail.
La baisse du pouvoir d'achat n'est pas le seul problème auquel doit faire face Virginia. La concurrence a fortement augmenté avec la pandémie. Privés d'un emploi fixe, les vendeurs ambulants se multiplient. Oriane Verdier, La Paz, RFI.
Et la Bolivie qui est fortement touchée par la pandémie de coronavirus. C'est l'un des pays où le nombre de morts par habitant est le plus important, avec 73 morts pour 100 000 habitants. Une décision historique maintenant. Les autorités américaines qui attaquent Google en justice, le géant de l'Internet accusé de position dominante. C'est l'aboutissement de plus d'un an d'enquête qui visait également d'autres géants comme Facebook ou encore Apple. L'action est menée par le ministère de la Justice et 11 États américains. Washington estime maintenant avoir recueilli suffisamment d'éléments pour prouver que Google multiplie les pratiques anticoncurrentielles pour conforter sa position sur le marché des moteurs de recherche. Et alors effectivement, c'est historique car il s'agit là de la plus importante action judiciaire en plus de 20 ans menée par le gouvernement fédéral américain à l'encontre de l'un de ces géants des nouvelles technologies, Abla Junaidi.
La dernière action du genre, c'était il y a 22 ans contre Microsoft et cela s'était soldé par un règlement à l'amiable. Désormais, c'est au moteur de recherche utilisé par défaut par des milliards de smartphones que le gouvernement américain s'attaque. L'administration en a fait un cheval de bataille en lançant il y a un peu plus d'un an une série d'enquêtes visant les pratiques de Google, mais aussi d'Amazon, Apple et Facebook. D'après le département de la justice, Google monnaierait la domination de son moteur de recherche, notamment sur les téléphones mobiles, en excluant par ses pratiques de potentiels concurrents. La filiale d'Alphabet réagit sur Twitter en dénonçant de graves insuffisances dans la plainte. Si le client choisit Google, c'est par choix et non par manque d'alternative, se défend la société. Bruxelles avait déjà tranché l'an dernier en infligeant une amende de 4,3 milliards d'euros au groupe Alphabet pour pratiques déloyales. Pas de quoi faire frémir le géant, capitalisé à 800 milliards de dollars. L'action lancée par le gouvernement américain pourrait prendre des années, mais sa force, c'est qu'elle jouit d'un vaste soutien. 11 procureurs d'État républicains se sont joints à la plainte et demandent des réformes structurelles à Google, déjà poursuivi dans plusieurs États.
Abla Junaidi, et c'est ainsi que s'achève ce journal en français facile. Vous pouvez retrouver le script sur internet savoir au pluriel.rfi.fr. Très bonne fin de soirée à tous à l'écoute de la Radio Mondiale.